Section 6. Introduction. Second mémoire. J'ai dit que je me proposais d'examiner dans ce second mémoire l'authenticité des traditions chrétiennes à Jérusalem. Quant à l'histoire de cette ville, comme elle ne présente aucune obscurité, elle n'a pas besoin d'explications préliminaires. Les traditions de la Terre Sainte tirent leur certitude de trois sources : de l'histoire, de la religion, des lieux ou des localités. Considérons-les d'abord sous le rapport de l'histoire. Jésus-Christ, accompagné de ses apôtres, accomplit à Jérusalem les mystères de la Passion. Les quatre évangiles sont les premiers documents qui nous retracent les actions du Fils de l'homme. Les actes de Pilate, conservés à Rome du temps de Tertullien, attestaient le principal fait de cette histoire, à savoir le crucifiement de Jésus de Nazareth. Le Rédempteur expire. Joseph d'Arimathie obtient le corps sacré et le fait ensevelir dans un tombeau au pied du calvaire. Le Messie ressuscite le troisième jour, se montre à ses apôtres et à ses disciples, leur donne ses instructions, puis retourne à la droite de son Père. Dès lors, l'Église commence à Jérusalem. On croira aisément que les premiers apôtres et les parents du Sauveur, selon la chair, qui composaient cette première Église du monde, n'ignorait rien de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Il est essentiel de remarquer que le Golgotha était hors de la ville, ainsi que la montagne des Oliviers, d'où il résultait que les apôtres pouvaient plus facilement prier au lieu sanctifié par le divin maître. La connaissance de ces lieux ne fut pas longtemps renfermée dans un petit cercle de disciples. Saint-Pierre, en deux prédications, convertit 8000 personnes à Jérusalem. Jacques, frère du Sauveur, fut élu premier évêque de cette église, l'an 35 de notre ère. Il eut pour successeur Siméon, cousin de Jésus-Christ. On trouve ensuite une série de 13 évêques de race juive, occupant un espace de 123 ans, depuis Tibère jusqu'au règne d'Adrien. Voici le nom de ces évêques : Juste, Zachée, Tobie, Benjamin, Jean, Matthias, Philippe, Sénèque, Juste II, Lévi, Ephre, Joseph et Jude. Si les premiers chrétiens de Judée consacrèrent des monuments à leur culte, n'est-il pas probable qu'ils les élevèrent de préférence aux endroits qu'avaient illustrés quelques miracles ? Et comment douter qu'il y eût dès lors des sanctuaires en Palestine, lorsque les fidèles en possédaient à Rome même et dans toutes les provinces de l'Empire ? Quand saint Paul et les autres apôtres donnent des conseils et des lois aux églises d'Europe et d'Asie, à qui s'adresse-t-il ? Si ce n'est à des congrégations de fidèles remplissant une commune enceinte sous la direction d'un pasteur. N'est-ce pas même ce qu'implique le mot « ecclésia » qui dans le grec signifie également « assemblée » et « lieu d'assemblée » ? Saint Cyril le prend dans ce dernier sens. L'élection des 7 diacres, l'an 33 de notre ère, le premier concile tenu l'an 50, annonce que les apôtres avaient dans la ville sainte des lieux particuliers de réunion. On peut même croire que le Saint-Sépulcre fut honoré dès la naissance du christianisme sous le nom de Martyrion ou du Témoignage. Martyrionnais. Du moins, Saint-Cyril, évêque de Jérusalem, prêchant en 347 dans l'église du Calvaire, dit « Ce temple ne porte pas le nom d'église, comme les autres, mais il est appelé Martyrionnais, Témoignage, comme le prophète l'avait prédit. » Au commencement des troubles de la Judée, sous l'empereur Vespasien, les chrétiens de Jérusalem se retirèrent à Pélia, et aussitôt que la ville eut été renversée, ils revinrent habiter parmi ses ruines. Dans un espace de quelques mois, ils n'avaient pu oublier la position de leur sanctuaire, qui, se trouvant d'ailleurs hors de l'enceinte des murs, ne durent pas souffrir beaucoup du siège. Siméon, successeur de Jacques, gouvernait l'église de Judée lorsque Jérusalem fut prise, puisque nous voyons ce même Siméon, à l'âge de 120 années, recevoir la couronne du martyr pendant le règne de Trajan. Les autres évêques que j'ai nommés et qui nous conduisent au temps d'Adrien s'établirent sur les débris de la cité sainte et ils en conservèrent les traditions chrétiennes. Que les lieux sacrés fussent généralement connus au siècle d'Adrien, c'est ce que l'on prouve par un fait sans réplique. Cet empereur, en rétablissant Jérusalem, éleva une statue à Vénus sur le mont du Calvaire, et une statue à Jupiter sur le Saint-Sépulcre. La grotte de Bethléem fut livrée au culte d'Adonis. La folie de l'idolâtrie publia ainsi, par ses profanations imprudentes, cette folie de la croix qu'elle avait tant intérêt à cacher. La foi faisait des progrès si rapides en Palestine avant la dernière sédition des Juifs que Bar-Kocheba, chef de cette sédition, avait persécuté les chrétiens pour les obliger à renoncer à leur culte. À peine l'église juive de Jérusalem fut-elle dispersée par Hadrien, l'an 137 de Jésus-Christ, que nous voyons commencer l'église des Gentils dans la ville sainte. Marc en fut le premier évêque, et Eusèbe nous donne la liste de ses successeurs jusqu'au temps de Dioclétien. Ce furent Cassien, Publius, Maxime, Julien, Caius, Symmac, Caius II, Julien II, Capiton, Valence, Dolichien, Narcisse, le 30e après les apôtres, Dius, Germanion, Gordius, Alexandre, Mazaban, Hyménée, Zabdas, Hermon, dernier évêque avant la persécution de Dioclétien. Cependant, Hadrien, si zélé pour ses dieux, ne persécuta point les chrétiens, excepté ceux de Jérusalem, qu'il regarda sans doute comme des juifs, et qui étaient en effet de nation israélite. On croit qu'il fut touché des apologies de Quadra et d'Aristide. Il écrivit même à Monicius Fundanus, gouverneur d'Asie, une lettre dans laquelle il défend de punir les fidèles sans sujet. Il est probable que les gentils convertis à la foi vécurent en paix dans Aélia, ou la Nouvelle Jérusalem, jusqu'au règne de Dioclétien. Cela devient évident par le catalogue des évêques de cette église que j'ai donné plus haut. Lorsque Narcisse occupait la chaire épiscopale,
les diacres
manquèrent d'huile à la fête de Pâques. Narcisse fit à cette occasion un miracle. Les chrétiens à cette époque célébraient donc publiquement leur mystère à Jérusalem. Il y avait donc des autels consacrés à leur culte. Alexandre, autre évêque d'Aélia, sous le règne de l'empereur Sévère, fonda une bibliothèque dans son diocèse. Or, cela suppose paix, loisirs et prospérité. Des proscrits n'ouvrent point une école publique de philosophie. Si les fidèles n'avaient plus alors pour célébrer leur fête la jouissance du calvaire, du Saint-Sépulcre et de Bethléem, ils ne pouvaient toutefois perdre la mémoire de ces sanctuaires. Les idoles leur en marquaient la place. Bien plus, les païens même espéraient que le temple de Vénus, élevé au sommet du calvaire, n'empêcherait pas les chrétiens de visiter cette colline sacrée, car ils se réjouissaient dans la pensée que les Nazaréens, en venant prier au Golgotha, auraient l'air d'adorer la fille de Jupiter. C'est une démonstration frappante de la connaissance entière que l'Église de Jérusalem avait des saints lieux. Il y a des auteurs qui vont plus loin et qui prétendent qu'avant la persécution de Dioclétien, les chrétiens de la Judée étaient rentrés en possession du Saint-Sépulcre. Il est certain que saint Cyrille, en parlant de l'église du Saint-Sépulcre, dit positivement « Il n'y a pas longtemps que Bethléem était un lieu champêtre, et que la montagne du Calvaire était un jardin dont on voit encore les traces, qu'étaient donc devenus
les édifices profanes. »
Tout porte à croire que les païens, en trop petit nombre à Jérusalem pour se soutenir contre la foule croissante des fidèles, abandonnèrent peu à peu les temples d'Hadrien. Si l'Église, encore persécutée, n'osa relever ses autels au grand tombeau, elle eut du moins la consolation de l'adorer sans obstacle et d'y voir tomber en ruine les monuments de l'idolâtrie. Nous voici parvenus à l'époque où les saints lieux commencent à briller d'un éclat qui ne s'effacera plus. Constantin, ayant fait monter la religion sur le trône, écrivit à Macaire, évêque de Jérusalem. Il lui ordonna de décorer le tombeau du Sauveur d'une superbe basilique. Hélène, mère de l'empereur, se transporta en Palestine et fit elle-même chercher le Saint-Sépulcre. Il avait été caché sous la fondation des édifices d'Hadrien. Un juif apparemment chrétien, qui selon Sozomène avait gardé des mémoires de ses pères, indiqua la place où devait se trouver le tombeau. Hélène eut la gloire de rendre à la religion le monument sacré. Elle découvrit encore trois croix, dont l'une se fit reconnaître à des miracles pour la croix du Rédempteur. Non seulement on bâtit une magnifique église auprès du Saint-Sépulcre, mais Hélène en fit encore élever deux autres, l'une sur la crèche du Messie à Bethléem, l'autre sur la montagne des Oliviers, en mémoire de l'ascension du Seigneur. Des chapelles, des oratoires, des autels marquèrent peu à peu tous les endroits consacrés par les actions du Fils de l'Homme. les traditions orales furent écrites et mises à l'abri de l'infidélité de la mémoire. En effet, Eusèbe, dans son Histoire de l'Église, dans sa Vie de Constantin et dans son Onomasticum Orbium et Locorum Sacrae Scripturae, nous décrit à peu près les saints lieux tels que nous les voyons aujourd'hui. Il parle du Saint-Sépulcre, du calvaire de Bethléem, de la montagne des Oliviers, de la grotte où Jésus-Christ révéla les mystères aux apôtres. Après lui vient Saint-Cyril, que j'ai déjà cité plusieurs fois. Il nous montre les stations sacrées telles qu'elles étaient avant et après les travaux de Constantin et de Sainte-Hélène. Socrate, Sozomène, Théodoré, Évagre donnent ensuite la succession de plusieurs évêques depuis Constantin jusqu'à Justinien, Macaire, Maxime, Cyril, Héronius, Héraclius, Hilaire, Jean, Salluste, Martyrius, Hélie, Pierre, Macaire II et Jean, quatrième du nom. Saint Jérôme, retiré à Bethléem vers l'an 385, nous a laissé en divers endroits de ses ouvrages le tableau le plus complet des lieux saints. Il serait trop long, dit-il dans une de ses lettres, de parcourir tous les âges depuis l'ascension du Seigneur jusqu'au temps où nous vivons pour raconter combien d'évêques, combien de martyrs, combien de docteurs sont venus à Jérusalem. Car ils auraient cru avoir moins de piété et de science s'ils n'eussent adoré Jésus-Christ dans les lieux mêmes où l'Évangile commença à briller du haut de la croix. Saint Jérôme assure dans la même lettre qu'il venait à Jérusalem des pèlerins de l'Inde, de l'Éthiopie, de la Bretagne et de l'Hibernie, qu'on les entendait chanter dans des langues diverses les louanges de Jésus-Christ autour de son tombeau. Il dit qu'on envoyait de toutes parts des aumônes au calvaire. Il nomme les principaux lieux de dévotion de la Palestine. Il ajoute que dans la seule ville de Jérusalem, il y avait tant de sanctuaires qu'on ne pouvait les parcourir dans un seul jour. Cette lettre est adressée à Marcel et censée écrite par saint Paul à saint Eustochie, quoique des manuscrits l'attribuent à saint Jérôme. Je demande si les fidèles qui, depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin du IVe siècle, avaient visité le tombeau du Sauveur, je demande s'ils ignoraient la place de ce tombeau. Le même père de l'Église, dans sa lettre à Eustochie sur la mort de Paul, décrit ainsi les stations où la sainte dame romaine s'arrêta. Elle se prosterna, dit-il, devant la croix, au sommet du calvaire. Elle embrassa au Saint-Sépulcre la pierre que l'ange avait dérangée lorsqu'il ouvrit le tombeau, et baisa surtout avec respect l'endroit touché par le corps de Jésus-Christ. Elle vit sur la montagne de Sion la colonne où le Sauveur avait été attaché et battu de verges. Cette colonne soutenait alors le portique d'une église. Elle se fit conduire au lieu où les disciples étaient rassemblés lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux. Elle se rendit ensuite à Bethléem et s'arrêta en passant au sépulcre de Rachel. Elle adora la crèche du Messie et lui semblait y avoir encore les mages et les pasteurs. À Bethphagée, elle trouva le monument de Lazare et la maison de Marthe et de Marie. À Sichar, elle admira une église bâtie sur le puits de Jacob où Jésus-Christ parla à la Samaritaine. Enfin, elle trouva à Samarie le tombeau de saint Jean-Baptiste. Cette lettre est de l'an 404. Il y a par conséquent 1406 ans qu'elle est écrite. On peut lire toutes les relations de la Terre Sainte depuis le voyage d'Arculf jusqu'à mon itinéraire et l'on verra que les pèlerins ont constamment retrouvé et décrit les lieux marqués par saint Jérôme. Certes, voilà du moins une belle et imposante antiquité. Une preuve que les pèlerinages à Jérusalem avaient précédé le temps même de saint Jérôme, comme le dit très bien le savant docteur, se tire de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. Cet itinéraire, selon les meilleurs critiques, fut composé en 333, pour l'usage des pèlerins des Gaules. Manner pense que c'était un tableau de route pour quelques personnes chargées d'une mission du prince. Il est bien plus naturel de supposer que cet itinéraire avait un but général. Cela est d'autant plus probable que les lieux saints y sont décrits. Il est certain que saint Grégoire de Nice blâme déjà l'abus des pèlerinages à Jérusalem. Lui-même avait visité les saints lieux en 379. Il nomme en particulier le calvaire, le Saint-Sépulcre, la montagne des Oliviers et Bethléem. Nous avons ce voyage parmi les œuvres du Saint-Évêque sous le titre de « Iter Hierosolyme ». Saint Jérôme cherche aussi à détourner Saint Paulin du pèlerinage de Terre Sainte. Ce n'étaient pas seulement les prêtres, les solitaires, les évêques, les docteurs qui se rendaient de toutes parts en Palestine à l'époque dont nous parlons. C'étaient des dames illustres et jusqu'à des princesses et des impératrices. J'ai déjà nommé Saint Paul et Saint Eustochie. Il faut compter encore les deux Mélanie. Le monastère de Bethléem se remplit des plus grandes familles de Rome qui fuyaient devant Alaric. 50 ans auparavant, Eutropie, veuve de Maximien Hercule, avait fait le voyage des saints lieux et détruit les restes de l'idolâtrie qui se montrait encore à la foire de Térébinthe, près d'Hébron. Le siècle qui suivit celui de saint Jérôme ne nous laisse point perdre de vue le calvaire. C'était alors que Théodoret écrivait son histoire ecclésiastique, où nous retrouvons souvent la chrétienne Sion. Nous l'apercevons mieux encore dans la vie des solitaires, par le même auteur. Saint Pierre Anachorète accomplit le voyage sacré. Théodoret passa lui-même en Palestine, où il contempla avec étonnement les ruines du temple. Les deux pèlerinages de l'impératrice Eudoxie, femme de Théodose le Jeune, sont de ce siècle. Elle fit bâtir des monastères à Jérusalem et y finit ses jours dans la retraite. Le commencement du VIe siècle nous fournit l'itinéraire d'Antonin de Plaisance. Il décrit toutes les stations comme saint Jérôme. Je remarque dans ce voyage un cimetière des pèlerins à la porte de Jérusalem, ce qui indique assez l'affluence de ces pieux voyageurs. L'auteur trouva la Palestine couverte d'églises et de monastères. Il dit que le Saint-Sépulcre était orné de pierreries, de joyaux, de couronnes d'or, de bracelets et de colliers. Le premier historien de notre monarchie, Grégoire de Tours, nous parle aussi, dans ce siècle, des pèlerinages à Jérusalem. Un de ses diacres était allé en Terre Sainte, et avec 4 autres voyageurs, ce diacre avait vu une étoile miraculeuse à Bethléem. Il y avait alors à Jérusalem, selon le même historien, un grand monastère où l'on recevait les voyageurs. C'est sans doute ce même hospice que Broca retrouva 200 ans après. Ce fut encore dans ce même siècle que Justinien éleva l'évêque de Jérusalem à la dignité patriarcale. L'empereur envoya au Saint-Sépulcre les vases sacrés que Titus avait enlevés du temple. Ces vases, tombés en 455 dans les mains de Genséric, furent retrouvés à Carthage par Bélisaire. Cosroès prit Jérusalem en 613. Héraclès rapporta au tombeau de Jésus-Christ la vraie croix que le roi des Perses avait enlevée. 21 ans après, Omar s'empara de la cité sainte, qui demeura sous le joug des Sarrasins, jusqu'au temps de Godefroy de Bouillon. On verra dans l'itinéraire l'histoire de l'église du Saint-Sépulcre pendant ces siècles de calamité. Elle fut sauvée par la constance invincible des fidèles de la Judée. Jamais ils ne l'abandonnèrent, et les pèlerins, rivalisant de zèle avec eux, ne cessèrent point d'accourir au Saint-Rivage. Quelques années après la conquête d'Omar, Arculf visita la Palestine. Adamanus, abbé de Jona en Angleterre, écrivit, d'après le récit de l'évêque français, une relation de la Terre Sainte. Cette relation curieuse nous a été conservée. Serranius la publia à Ingolstadt en 1619, sous ce titre « De locis terrae sanctae lib. 3 ». On en trouve un extrait dans les œuvres du vénérable Bède, De situ Jérusalem et locorum sanctorum liber. Mabillon a transporté l'ouvrage d'Adamanus dans sa grande collection Acta SS Ordin S Benedicti 2, 514. Arculf décrivit les lieux saints tels qu'ils étaient du temps de saint Jérôme et tels que nous les voyons aujourd'hui. Il parle de la basilique du Saint-Sépulcre comme d'un des monuments de forme ronde. Il y trouva des églises et des oratoires à Béthanie, sur la montagne des Oliviers, dans le jardin du même nom, et dans celui de Gethsémani, etc. Il admira la superbe église de Bethléem, etc. C'est exactement tout ce que l'on montre de nos jours. Et pourtant ce voyage est à peu près de l'an 690, si l'on fait mourir Adamanus au mois d'octobre de l'année 704. Au reste, du temps de saint Arculf, Jérusalem s'appelait encore Aelia. Nous avons au 8e siècle deux relations du voyage à Jérusalem de saint Guillebaud. Toujours description des mêmes lieux, toujours même fidélité de tradition. Ces relations sont courtes, mais les stations essentielles sont marquées. Le savant Guillaume Cave indique un manuscrit du vénérable Bède, In Bibliotheca Gualtari Copi, code 169, sous le titre de Libellius de Sanctis Locis. Bède naquit en 672 et mourut en 732. Quel que soit ce petit livre sur les lieux saints, il faut le rapporter au 8e siècle. Sous le règne de Charlemagne, au commencement du 9e siècle, le calife Haroun el-Rachid céda à l'empereur français la propriété du Saint-Sépulcre. Charles envoyait des aumônes en Palestine, puisqu'un de ses capitulaires reste avec cet énoncé « De Helee Mosina Mitenda ad Jérusalem ». Le patriarche de Jérusalem avait réclamé la protection du monarque d'Occident. Eginhard ajoute que Charlemagne protégeait les chrétiens d'outre-mer. À cette époque, les pèlerins latins possédaient un hospice au nord du temple de Salomon, près du couvent de Sainte-Marie, et Charlemagne avait fait don à cet hospice d'une bibliothèque. Nous apprenons ces particularités de Bernard le Moine, qui se trouvait en Palestine vers l'an 870. Sa relation fort détaillée donne toutes les positions des lieux saints. Élie, troisième du nom, patriarche de Jérusalem, écrivit à Charles le Gros au commencement du 10e siècle. Il lui demandait des secours pour le rétablissement des églises de Judée. « Nous n'entrerons point, dit-il, dans le récit de nos maux, ils vous sont assez connus par les pèlerins qui viennent tous les jours visiter les saints lieux et qui retournent dans leur patrie. » Le 11e siècle, qui finit par les croisades, nous donne plusieurs voyageurs en Terre sainte. Holderic, évêque d'Orléans, fut témoin de la cérémonie du feu sacré au Saint-Sépulcre. Il est vrai que la chronique de Glaber doit être lue avec précaution. Mais ici, il s'agit d'un fait et non d'un point de critique. Alatius, in Simictis sive opusculis, etc., nous a conservé l'itinéraire de Jérusalem du grec Eugysippe. La plupart des lieux saints y sont décrits, et ce récit est conforme à tout ce que nous connaissons. Guillaume le Conquérant envoya dans le cours de ce siècle des aumônes considérables en Palestine. Enfin, le voyage de Pierre l'Ermite, qui eut un si grand résultat, et les croisades elles-mêmes, prouvent à quel point le monde était occupé de cette religion lointaine où s'opéra le mystère du salut. Jérusalem demeura entre les mains des princes français l'espace de 88 ans, et durant cette période, les historiens de la collection Gesta Dei per Francos ne nous laissent rien ignorer de la Terre Sainte. Benjamin de Tudèle passa en Judée vers l'an 1173. Lorsque Saladin eut repris Jérusalem sur les croisés, les Syriens rachetèrent pour une somme considérable l'église du Saint-Sépulcre, et, malgré les dangers de l'entreprise, les pèlerins continuèrent à visiter la Palestine. Phocas, en 1208, Villebrand d'Oldenbourg, en 1211, Jacob Vetraco de Vétry, en 1231, Brocard, religieux dominicain, en 1283, reconnurent et consignèrent dans leur voyage tout ce qu'on avait dit avant eux sur les lieux saints. Pour le XIVe siècle, nous avons Ludolf, Mandeville et Sanuto. Pour le XVe, Breinderbach, Tuchor, Langy. Pour le XVIe, Heiter, Salignac, Pacha, etc. Pour le XVIIe, Kotovic, Nao, et cent autres. Pour le 18e, Mandrel, Pocock, Shaw et Hasselquist. Ces voyages, qui se multiplient à l'infini, se répètent tous les uns les autres et confirment les traditions de Jérusalem de la manière la plus invariable et la plus frappante. Quel étonnant corps de preuve, en effet, les apôtres ont vu Jésus-Christ. Ils connaissent les lieux honorés par les pas du Fils de l'homme. Ils transmettent la tradition à la première église chrétienne de Judée. La succession des évêques s'établit et garde soigneusement cette tradition sacrée. Eusèbe paraît et l'histoire des saints lieux commence. Socrate, Sozomène, Théodoret, Évagre, Saint Jérôme, la continue. Les pèlerins accourent de toutes parts, depuis ce moment jusqu'à nos jours, une suite de voyages non interrompus nous donne, pendant 14 siècles, et les mêmes faits et les mêmes descriptions. Quelle tradition fut jamais appuyée d'un aussi grand nombre de témoignages? Si l'on doute ici, il faut renoncer à croire quelque chose. Encore ai-je négligé tout ce que j'aurais pu tirer des croisades. J'ajouterai à tant de preuves historiques quelques considérations sur la nature des traditions religieuses et sur le local de Jérusalem. Il est certain que les souvenirs religieux ne se perdent pas aussi facilement que les souvenirs purement historiques. Ceux-ci se sont confiés en général qu'à la mémoire d'un petit nombre d'hommes instruits qui peuvent oublier la vérité ou la déguiser selon leur passion. Ceux-là sont livrés à tout un peuple qui les transmet machinalement à ses fils. Si le principe de la religion est sévère, comme dans le christianisme, si la moindre déviation d'un fait ou d'une idée devient une hérésie, il est probable que tout ce qui touche à cette religion se conservera d'âge en âge avec une rigoureuse exactitude. Je sais qu'à la longue, une piété exagérée, un zèle mal entendu, une ignorance attachée au temps et aux classes inférieures de la société peuvent surcharger un culte de traditions qui ne tiennent pas contre la critique. Mais le fond des choses reste toujours. 18 siècles, qui tous indiquent au même lieu les mêmes faits et les mêmes monuments, ne peuvent tromper. Si quelques objets de dévotion se sont trop multipliés à Jérusalem, ce n'est pas une raison de rejeter le tout comme une imposture. N'oublions pas d'ailleurs que le christianisme fut persécuté dans son berceau et qu'il a presque toujours continué de souffrir à Jérusalem. Or, l'on sait quelle fidélité règne parmi des hommes qui gémissent ensemble. Tout devient sacré alors, et la dépouille d'un martyr est conservée avec plus de respect que la couronne d'un monarque. L'enfant qui peut à peine parler connaît déjà cette dépouille. Porté la nuit dans les bras de sa mère à de périlleux autels, il entend des chants, il voit des pleurs qui gravent à jamais dans sa tendre mémoire des objets qu'il n'oubliera plus. Et quand il ne devrait encore montrer que de la joie, l'ouverture de cœur et la légèreté de son âge, il apprend à devenir grave, discret et prudent. Le malheur est une vieillesse prématurée. Je trouve dans Eusèbe une preuve remarquable de cette vénération pour une relique sainte. Il rapporte que de son temps, les chrétiens de la Judée conservaient encore la chaise de saint Jacques, frère du Sauveur et premier évêque de Jérusalem. Gibbon lui-même n'a pu s'empêcher de reconnaître l'authenticité des traditions religieuses en Palestine. « The Fidex Christians, dit-il, by unquestionable tradition, the scene of each memorable event. » Ils fixèrent, les chrétiens, par une tradition non douteuse, la scène de chaque événement mémorable. Aveu d'un poids considérable dans la bouche d'un écrivain aussi instruit que l'historien anglais et d'un homme en même temps si peu favorable à la religion. Enfin, les traditions de lieu ne s'altèrent pas comme celles des faits, parce que la face de la terre ne change pas aussi facilement que celle de la société. C'est ce que remarque très bien Danville, dans son excellente dissertation sur l'ancienne Jérusalem. Les circonstances locales, dit-il, et dont la nature même décide, ne prennent aucune part au changement que le temps et la fureur des hommes ont pu apporter à la ville de Jérusalem. Aussi Danville retrouve-t-il, avec une sagacité merveilleuse, tout le plan de l'ancienne Jérusalem dans la nouvelle. Le théâtre de la Passion, à l'étendre depuis la montagne des Oliviers jusqu'au calvaire, n'occupe pas plus d'une lieue de terrain. Et voyez combien de choses faciles à signaler dans ce petit espace. C'est d'abord une montagne appelée la montagne des Oliviers, qui domine la ville et le temple à l'Orient. Cette montagne est là et n'a pas changé. C'est un torrent de Cédron, et ce torrent est encore le seul qui passe à Jérusalem. C'est un lieu élevé à la porte de l'ancienne cité où l'on mettait à mort les criminels. Or, ce lieu élevé est aisé à retrouver entre le mont Sion et la porte judiciaire, dont il existe encore quelques vestiges. On ne peut méconnaître Sion puisqu'elle était encore la plus haute colline de la ville. Nous sommes, dit notre grand géographe, assurée des limites de cette ville dans la partie que Sion occupait. C'est le côté qui s'avance le plus vers le midi, et non seulement on est fixé de manière à ne pouvoir s'étendre plus loin de ce côté-là, mais encore l'espace de l'emplacement que Jérusalem peut y prendre en largeur se trouve déterminé d'une part par la pente ou l'escarpement de Sion qui regarde le couchant, et de l'autre par son extrémité opposée vers Cédron. Tout ce raisonnement est excellent, et on dirait que Danville l'a fait d'après l'inspection des lieux. Le Golgotha était donc une petite croupe de la montagne de Sion, à l'orient de cette montagne et à l'occident de la porte de la ville. Cette éminence, qui porte maintenant l'église de la résurrection, se distingue parfaitement encore. On sait que Jésus-Christ fut enseveli dans un jardin au bas du calvaire. Or, ce jardin et la maison qui en dépendait ne pouvaient disparaître au pied du Golgotha, monticule dont la base n'était pas assez large pour qu'on y perde un monument. La montagne des Oliviers et le torrent de Cédron donnent ensuite la vallée de Josaphat. Celle-ci détermine la position du temple sur le mont Moria. Le temple fournit la porte triomphale et la maison d'Hérode, que Joseph place à l'orient, au bas de la ville et près du temple. Le prétoire de Pilate touchait presque à la tour Antonia, et on connaît les fondements de cette tour. Ainsi, le tribunal de Pilate et le calvaire étant trouvés, on place aisément la dernière scène de la Passion sur le chemin qui conduit de l'un à l'autre, surtout ayant encore pour témoin un fragment de la porte judiciaelle. Ce chemin est cette Via Dolorosa, si célèbre dans toutes les relations des pèlerins. Les actions de Jésus-Christ hors de la Cité Sainte ne sont pas indiquées par les lieux avec moins de certitude. Le jardin des Oliviers, de l'autre côté de la vallée de Josaphat et du torrent de Cédron, est visiblement aujourd'hui dans la position que lui donne l'Évangile. Je pourrais ajouter beaucoup de faits, de conjectures et de réflexions à tout ce que je viens de dire. Mais il est temps de mettre un terme à cette introduction déjà trop longue. Quiconque examinera avec candeur les raisons déduites dans ce mémoire conviendra que, s'il y a quelque chose de prouvé sur la terre, c'est l'authenticité des traditions chrétiennes à Jérusalem. Fin de l'introduction. Fin de la section 6.